et deux orphelines, quatrième partie, chapitre 5. Où allait Picard en quittant si fort en colère la salpêtrière? Dans son impuissance à porter secours à la malheureuse Henriette, le vieux domestique s'était dit qu'il lui fallait à tout prix délivrer le chevalier de Vaudrey. À le voir marcher avec la résolution d'un soldat qui va monter à l'assaut, on eût pu croire qu'il allait accomplir un acte purement énergique. Et cependant, il ne songeait à rien moins qu'à s'introduire de force à la Bastille. Il voulait acheter un des gardiens et délivrer son jeune maître. Il ne soupçonnait pas, dans son délire, que ses efforts iraient bientôt se heurter à plus d'un obstacle et que, loin de pouvoir faire évader le chevalier aussi facilement qu'il l'espérait, il ne lui serait même pas possible de pénétrer dans cette prison d'État. Dans son dernier entretien avec le lieutenant de police, Picard, comme on l'a vu, avait appris que Roger n'avait pas été plongé dans un de ces cachots où, selon la terrible légende, on enfermait les prisonniers, enchaînés au mur par le cou, forcés ainsi de rester accroupis nuit et jour, ne pouvant ni se redresser, ni s'étendre, et mourant dans d'effroyables tortures. Il le savait, par la confidence que lui en avait faite le comte de Lignières lui-même, que le jeune gentilhomme était traité exactement comme l'étaient les officiers gardiens de cette prison, à cette différence près qu'on le mettait sous clé dans sa cellule à l'heure indiquée par le règlement pour le sommeil des prisonniers. À part ce détail, qui, Picard le reconnaissait, avait bien son importance, le chevalier était traité avec tous les égards dus au neveu du lieutenant général de police. Depuis que M. de Lignières avait été nommé aux fonctions élevées qu'il occupait, deux fois déjà Picard l'avait accompagné à la Bastille. Et pendant que son maître causait avec le gouverneur, il s'était promené dans l'intérieur de la prison. Les guichetiers l'avaient piloté avec toute la déférence que l'on témoigne, généralement, aux domestiques des grands personnages. Picard ne se doutait pas alors qu'un jour il aurait peut-être besoin de se rappeler par quel chemin on l'avait fait passer et de se souvenir de la disposition des cellules, du nombre des couloirs qu'il fallait traverser avant d'arriver à celle réservée aux prisonniers qui n'étaient pas absolument condamnés à finir leur jour dans un cachot. Il avait traversé de nombreux couloirs, parcouru d'immenses galeries pour arriver à l'entrée de la salle d'allée tout autour de laquelle se trouvaient les fameuses oubliettes. Mais là, notre homme s'était arrêté en tressaillant, comme si on l'eût conduit en cet endroit pour le murer vivant dans un de ces cercueils de pierre qui ne laissent arriver au dehors ni les gémissements des malheureux, ni leurs cris d'agonie. Picard n'avait pas oublié qu'en remontant, on l'avait fait passer dans un couloir plus vaste que les autres et que l'air frais du dehors l'avait frappé au visage, ce qui lui avait procuré une agréable sensation après l'air vicié et chargé de poussière qu'il avait respiré pendant toute cette lugubre promenade au milieu des souterrains. « Qu'est-ce que ça ? » avait-il demandé. Et on lui avait répondu que c'était une lucarne, une des rares aussi larges, qui laissait pénétrer l'air et le jour dans la meilleure des cellules de la prison. « Une vraie cellule de prince du sang ? » avait-il alors répondu en riant. Picard, toujours interrogeant, avait appris en outre que c'était la cellule des préférés du gouverneur ou des gentilshommes qu'on envoyait à la Bastille que pour les empêcher d'être ailleurs pendant quelques jours. Un clignement d'yeux faisait comprendre le sens de cette phrase. « Eh bien, si jamais je viens vous demander, de la part de mon maître, asile pendant quelque temps, je vous prierai de me permettre de rester dans cette excellente cellule, » avait-il dit plaisamment. Tout en parlant, il s'était avancé de quelques pas dans la petite pièce et s'était assuré par lui-même que pour un prisonnier, c'était tout ce qu'on pouvait désirer de plus confortable. Il avait même remarqué que la lucarne, presque une croisée, par laquelle un homme de taille moyenne pouvait passer, donnait sur les toits de la maison voisine, très rapprochée des murs du donjon. Mais, entre cette maison et la Bastille, il y avait le poste des gardes françaises, une pièce basse enfumée, où les soldats étaient toujours prêts en cas d'alerte. Puis, sur la plateforme du donjon, les sentinelles faisaient bonne garde, le fusil chargé, prêt à tirer sur ceux qui auraient essayé d'entrer, et sur les prisonniers auxquels serait venue la malencontreuse idée de vouloir s'évader par là. L'imposante masse de la forteresse était entourée d'une seconde enceinte, derrière laquelle on entendait clapoter l'eau du fossé lorsque le vent s'engouffrait entre la double ceinture de murailles crénelées flanquée de ses 9 tours. Et c'était derrière ces sombres murs, presque impénétrables au boulet, que le chevalier de Vaudrey était enfermé. Il s'agissait pour Picard de le faire évader de cette cellule où il se livrait sans doute au désespoir. C'est au travers de cette enceinte si bien gardée qu'il fallait lui trouver une issue. Tout d'abord, dans l'agitation qui s'était emparée de son esprit, au moment où il quittait la salpêtrière, le serviteur dévoué s'était pris d'enthousiasme pour l'idée extravagante qui lui venait de délivrer son jeune maître. Il ne rêvait à rien moins qu'à faire imiter Latude par le chevalier. Latude et son compagnon d'Allègre ont bien su tromper toutes les surveillances, pensait-il, aplanir tous les obstacles, déceler les barreaux de fer, percer les murailles, s'élancer par-dessus les créneaux au moyen d'une échelle qu'ils avaient fabriquée eux-mêmes, sans outils, sans cordes, une échelle assez longue pour leur permettre de descendre dans le fossé. Eh bien, poursuivait-il mentalement, nous aussi, nous fabriquerons des échelles s'il le faut, nous percerons les murs, nous descendrons dans le fossé. Et si cela ne suffit pas, nous assommerons les geôliers, les sentinelles avec leurs officiers, le gouverneur lui-même. Mais nous nous échapperons, nous irons délivrer notre bien-aimé, nous l'arracherons des mains de ces misérables bourreaux d'exemple et nous l'épouserons au nez et à la barbe de monsieur le lieutenant de police. Mais depuis, Picard avait singulièrement vu diminuer son enthousiasme. Il se rappelait maintenant que Latude n'était pas seul dans sa cellule comme Roger, que son ami d'Allègre l'avait aidé, et que cependant, ils avaient, à eux deux, des gaillards solides et résolus, mis un grand nombre d'années à fabriquer la fameuse échelle de corde. Et pour y arriver, ils avaient dû défaire, fil à fil, la toile de plusieurs douzaines de chemises, se fabriquer des outils avec des morceaux de fer et un fragment de casserole. Ils avaient en outre décelé les barres de fer qui fermaient l'ouverture de la cheminée, par où ils étaient sortis de la cellule, et ce simple travail avait duré 6 mois, paraît-il. « Mais dans 6 mois, s'écriait Picard, bien qu'il fût seul à s'entendre parler, dans 6 mois, nous serons morts de chagrin ou de rage. » Pour s'évader, Roger n'avait que 5 jours, car dans 5 fois 24 heures, disait le valet, notre bien-aimé sera sur le pont du navire qui doit la transporter loin de nous, vers la terre d'exil. Picard calculait en effet le temps que mettrait la voiture où l'on entassait les filles condamnées à la déportation à gagner le port d'embarquement. Ne doutant pas que Marest ne se fût fait délivrer le jour même les détenus dont les noms figuraient sur sa liste, il se disait que le chevalier et lui, avec de bons chevaux, rattraperaient les voyageurs et qu'ils délivreraient Henriette avant qu'on ne l'ait embarquée. Mais le plus difficile n'était pas de se procurer de bons postiers, car outre l'argent que pouvait posséder sur lui le chevalier, le digne serviteur était disposé à mettre au service de son maître toutes ses économies. Seulement, ce n'était pas avec de l'argent qu'il parviendrait, pensait-il, à se faire ouvrir les portes de la terrible forteresse. 5 jours, répétait-il en se promenant de long en large, dans le bout extrême de la rue Saint-Antoine, comme un homme arrivé trop tôt à un rendez-vous. 5 jours. Après quoi, si nous n'avons pas réussi, Dieu sait ce qu'il en sera de nous. Nous avons déjà un chagrin qui nous mine. Qui sait si nous aurons la force de supporter plus longtemps l'existence? Le pauvre homme prenait si bien sa part du désespoir de son jeune maître qu'il ne séparait plus désormais son propre sort de celui du chevalier. Décidé comme il l'était à suivre à l'avenir la fortune de monsieur de Vaudrey, il ne se préoccupait plus de ce que pourrait penser de lui cet autre maître dont il trahissait si audacieusement la confiance. Il était résolu à mettre tout en œuvre pour contrecarrer la volonté du comte de Lignières et faire échouer ses projets d'intimidation et de violence contre le fiancé d'Henriette. Aussi, tout en faisant les 100 pas à proximité de la Bastille, ruminait-il, dans sa pauvre tête pleine de pensées tumultueuses, les moyens les plus extravagants, les combinaisons les plus bizarres, mais sans grand espoir de les voir réussir. Le hasard vint à son secours au moment où il s'y attendait le moins. Il arpentait, pour la 100e fois peut-être, la façade principale de la prison d'État lorsqu'il vit un certain mouvement se produire du côté de la place. Un grand nombre de curieux s'avançaient presque jusqu'au fossé pour voir fonctionner le pont-levis qui allait donner accès à une compagnie de gardes françaises. C'était l'heure de la garde montante et cette compagnie devait remplacer celle qui avait fourni ses 24 heures de service dans la forteresse. Les badauds du faubourg Saint-Antoine étaient particulièrement friands de ce spectacle militaire. On aimait les gardes françaises autant qu'on avait d'antipathie pour les Suisses de la garde royale. On se pressait donc pour voir passer les soldats sur le pont-levis, tout en faisant force commentaires sur l'inutilité d'enfermer tous ces braves dans une prison et d'en faire les geôliers des victimes du bon plaisir. Déjà, l'idée révolutionnaire fermentait dans les têtes au point de se manifester en propos que l'on se fût bien gardé d'émettre quelques années auparavant sous le règne du bien-aimé. Picard s'était rapproché de l'un des groupes, machinalement attiré par l'aimant de la foule. Il regardait sans prendre le moindre intérêt à ce jeu de soldats. Que lui importait que ce fût une compagnie plutôt qu'une autre qui gardât ce jour-là son cher chevalier? Celui-ci n'en serait pas moins bien gardé. Encore si, parmi ses troupiers, se trouvait quelqu'un de sa connaissance, il pourrait espérer l'impossible, à savoir intéresser le militaire au sort de Roger, le décider à favoriser une évasion. Mais tout cela n'était qu'un rêve insensé, dont le ridicule éclatait aux yeux. Picard haussa les épaules de pitié, s'en voulant d'être si pauvre d'imagination. Il se souvenait d'avoir promis au chevalier de pénétrer auprès d'Henriette, d'une part, et de l'autre, de travailler à lui ouvrir les portes de la Bastille. Or, jusqu'à ce moment, il n'avait réussi à entrer à la Salpêtrière que pour être témoin de l'exécution, par Mareste, des ordres rigoureux lancés contre Henriette. Il s'en voulait de son impuissance. Il se maltraitait intérieurement, s'accusant d'être un misérable, bon à rien sur cette terre, et qui méritait bien le mépris et la colère du maître qu'il n'avait pas su servir intelligemment. Perdu au milieu de tout ce monde d'individus gouailleurs, sans souci, avides de spectacles de tout genre, il faisait triste mine. Tout à coup, sa figure changea d'expression et s'éclaira comme par enchantement. Ses yeux, naguère encore si tristes, pétillèrent, tandis que ses lèvres ébauchaient un sourire. La vue d'un geôlier avait opéré cette métamorphose. Rumignac, ce même geôlier dont nous avons parlé à l'occasion de ses relations antérieures avec le valet de M. de Lignières, avait entrouvert la lourde porte massive, hérissée de clous et bardée de ferrures, qui fermait l'une des poternes, à droite de la forteresse. Et Picard, l'ayant reconnu, s'était instinctivement dirigé vers lui. Qu'espérait-il ? Rien de bien précis, assurément. Mais c'était quelqu'un de la prison, à qui il pourrait parler du prisonnier. Il allait peut-être, en faisant jaser son ami Rumignac, obtenir de lui des nouvelles du chevalier et savoir comment il supportait sa captivité. Au point où en était arrivé le vieux serviteur, il se raccrochait à toutes les branches. Aussi se composa-t-il une physionomie tout à fait calme et rassurée pour aborder le geôlier. Et c'est la bouche en cœur qu'il dit à celui-ci. « Eh, quoi ? Vous vous évadez comme ça par la poterne ? Corne de biche, mon gaillard, vous avez de la chance, vous, de pouvoir venir prendre le grand air au dehors. Et j'en connais certains qui ne seraient pas fâchés d'en faire autant. Pardier, fit avec un gros rire Rumignac, quand ce ne serait que le numéro 215. Le numéro 215 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le seul nom de monsieur le chevalier de Vaudray à cette heure, répondit le geôlier en soulevant ironiquement le bonnet de fourrure qu'il avait sur la tête. Picard tressaillit, mais se contraignant, il parvint à rire à son tour. Puis devenant familier, ce pauvre chevalier, fit-il en haussant les épaules. Il doit joliment se faire de la bile là-dedans. Vous pouvez m'en croire. Ah, le malheureux ! Puis, se reprenant pour ne rien laisser percer de ce qu'il éprouvait de douloureuses émotions, après tout, il n'a que ce qu'il mérite. Croyez-vous que son oncle, ce bon monsieur de Lignières, n'a pas eu raison, 100 000 fois raison, de le faire enfermer ? Ce fut le tour du geôlier de paraître surpris de ce qu'il entendait. Picard avait en effet l'air et le ton d'un homme absolument convaincu. « Il a donc commis quelque faute bien grave ?»« Une faute horrible, épouvantable, mon cher monsieur Rumignac. Allons donc, un si gentil jeune homme, qui vous a l'air doux et qui est poli, poli comme on ne l'est pas. Eh bien oui, ce gentil jeune homme s'est rendu coupable d'un crime monstrueux. »« Ah bon ? » ?»« Oui, monsieur Rumignac, il s'est permis de tomber amoureux. » Amoureux fou. Et c'est pour cela qu'on l'a enfermé à la Bastille, ne put s'empêcher de s'écrier le geôlier. Puis à la réflexion et parlant à l'oreille de Picard. Alors, c'est qu'il s'est adressé à une, et dans un murmure, il n'a pas osé aimer la reine. Ces paroles étaient à peine sorties de ses lèvres que Rumignac se retournait pour voir si personne ne les avait entendues. Quant à Picard, continuant à dissimuler, « Non, mon cher, non, le chevalier était bien plus imprudent. Il a oublié que nous étions de haute noblesse, et il s'est avisé d'aimer une fille du peuple, une demoiselle sortie de je ne sais plus quel trou de province, et il veut à toute force en faire sa maîtresse. Si ce n'était que ça, où serait le mal ? » ricana Picard. « Mais il veut l'épouser. » Et saisissant le bras de son interlocuteur, il l'agita avec violence, comme s'il n'eût pas été maître d'une sainte colère. « Épouser une donzelle, sans nom, sans sou ni maille, une petite rien du tout, qui a su faire la sainte nitouche, sans doute, et qui a réussi à rendre ce pauvre chevalier fou, fou allié !» Il s'animait à dessein, continuant avec un emportement habilement joué. « Aujourd'hui, il est coffré à la Bastille, comme les grands criminels d'État. Eh bien, qu'il y reste, qu'il y vieillisse comme la Tude. Qu'il y élève des araignées savantes, comme fit Pélisson. À coup sûr, il en aura tout le temps, s'il ne se décide pas à faire amende honorable. Car son oncle est bien décidé à le laisser moisir dans sa cellule. Et ce n'est pas moi qui demanderai sa grâce à mon maître. » Picard était cramoisi en parlant de la sorte, ce que son interlocuteur mit sur le compte de la colère que le fidèle serviteur du lieutenant de police éprouvait contre le chevalier de Vaudrey. « Calmez-vous, mon brave, » fit Rumignac. C'est pas la peine de s'emporter comme ça contre un pauvre prisonnier qui est bien triste, bien affligé, au point que si ça continue, il n'ira pas longtemps. » Picard se sentit devenir livide. Qu'allait-il apprendre ? Quoi ? Son cher maître n'irait pas longtemps ? Pourquoi ? Quel sens donner à cette déclaration que le geôlier avait faite, d'un ton attristé et en secouant la tête ? « Pas longtemps ? » fit-il en s'efforçant de ne pas balbutier. « Pardier ! Puisqu'il ne mange pas. Il ne... Non ! Depuis qu'il est ici, je remporte chaque jour sa pitance, sans qu'il y ait touché. » Toute sa pitance ? C'est à peine s'il a grignoté quelques petits morceaux de pain et avalé quelques gorgées d'eau. Et cependant, je lui ai servi un menu de premier choix, car on l'a spécialement recommandé au gouverneur. Picard avait dressé l'oreille. Ce qu'il apprenait de l'exception qu'on faisait en faveur du prisonnier, en ce qui concernait le menu, comme avait dit Rumignac, le rassurait, d'une part, sur les intentions de l'oncle, et de l'autre, faisait entrevoir la possibilité de tenter la délivrance du neveu. Ce n'était pas, pensait-il, le moment de laisser tomber la conversation, puisqu'il trouvait le geôlier disposé à bavarder. Aussi, revenant à une des précédentes répliques, il dit à brûle-pourpoint à Rumignac : Avec quelle adresse, avec quelle habileté il a su s'évader, ce Latude ! Et quelle persévérance ! Bah ! Fit Rumignac. Je connais un particulier qui a su se procurer la clé des champs sans y mettre autant d'années qu'il en a fallu à ce fameux Latude. Vraiment ? Et quel est cet homme habile ? Moi, monsieur Picard, dit avec fierté Rumignac. Vous ? Comptez-moi donc cela. J'y consens, mais pas ici. Tout le monde me regarde déjà comme un événement. C'est qu'on a reconnu en vous... Oui, un geôlier. Un de ces êtres sans cœur qui font souffrir mort et martyr à des innocents. Un bourreau, quoi, qui n'a rien là-dedans. » Et Rumignac, redevenu sérieux, se frappait la poitrine du côté du cœur. « C'est un signe des temps, mon cher monsieur Rumignac. » Et se rappelant les discours, les prédictions du chevalier de Vaudrey, lorsque celui-ci parlait de la fin prochaine de la vieille société vermoulue et prédisait à ses amis, à ses compagnons de plaisir, l'imminence de la révolution, Picard continua d'un air capable. « Oui, monsieur Rumignac, c'est un signe des temps !» montrant les groupes. « Tout ce monde-là rêve quelque chose de terrible. Dans toutes ces têtes, il y a du feu qui couve, et qui un jour échauffera les cervelles à tel point qu'il en jaillira des idées violentes, terribles, épouvantables. Vous les voyez, calmes en apparence. Qui sait s'ils ne méditent pas, en regardant ces hautes murailles, de prendre d'assaut la Bastille ? Riposta moitié goguenard, moitié sérieux le geôlier. « Et pourquoi pas ? Vous voulez rire, mon brave ? Rions, tant que nous sommes du côté du manche. Mais il faut bien prévoir que nous pourrons, un jour, être du côté du balai ? C'est possible !» Puis d'un ton tragique. « Qui sait, monsieur Rumignac, si ce jour-là, vous et moi, nous ne serons pas enfermés là-dedans à notre tour ?» Il indiqua du doigt la Bastille. « Et si, continua-t-il, ceci, montrant les hommes du peuple, ne deviendront pas nos geôliers. Et qui sait ? Il allait continuer sa tirade lorsque Rumignac se remit en marche en ricanant. « Tout ça, c'est des bêtises, des balivernes, comme en écrivent un tas d'écrivassiers et de pamphlétaires, dont j'ai vu de près quelques échantillons dans la forteresse que voici. » Il avait tendu la main au valet. « Moi, fit-il, je rentre chez moi. Je vais voir la ménagère et embrasser les enfants, car je ne reprends mon service qu'à la tombée de la nuit. Tiens, j'allais vous proposer de trinquer ensemble. À la santé du roi, tout de même. » Et se ravisant. « Mais pas au cabaret, c'est compromettant. »
« Autant pour votre qualité d'employé du gouvernement, »
insinua Picard.
« Que pour votre dignité de valet de chambre. »
« Premier valet de chambre et serviteur de confiance du très puissant lieutenant général de police, » surenchérit Picard en appuyant sur les mots. « Aussi, monsieur Picard, je vous prierai d'accepter l'hospitalité d'un pauvre mais brave homme. » « De grand cœur, monsieur Rumignac. » Les deux hommes traversèrent le chemin de ronde qui entourait la Bastille et arrivèrent à l'entrée de la rue Saint-Antoine devant une petite maison dont le geôlier ouvrit la porte basse et faisant passer son invité devant lui.
« Hé hé ! » fit-il. « Entendez-vous la nichée qui piaille là-dedans ? C'est au rez-de-chaussée. Tenez, à droite !»
La femme Rumignac se présenta en ce moment sur le seuil et introduisit Picard dans la pièce enfumée qui servait de nid à la couvée d'enfants et de salle à manger. Le repas du père, qu'on attendait, était déjà prêt sur la table, flanqué d'une bouteille à grosse panse.
« Asseyez-vous là, en face de moi !» fit gaiement le geôlier, après avoir renvoyé la marmaille. « Et toi, femme, apporte un gobelet pour cet excellent monsieur Picard. Le... comment dirais-je ? Le factotum de monseigneur, le lieutenant de police. »
Madame Rumignac salua très bas.
« Puis, continua le geôlier, tu pourras nous laisser, car j'ai besoin de causer avec mon ami Picard. »
Les gobelets emplis, les deux hommes les vidèrent d'un trait. Le valet buvait peu d'habitude, mais il fit violence à sa sobriété pour faire honneur à son hôte. Rumignac commença en reposant bruyamment le gobelet d'étain sur la table.
« Vous me demandiez donc, mon cher monsieur, de vous raconter comment j'ai fait... pour vous évader de prison. Enfin, comment vous vous y prendriez pour sortir de la Bastille, si vous y étiez enfermé ?
Moi ? Mais comme je m'y suis pris autrefois pour m'évader de la forteresse dans laquelle ces diables d'anglais m'avaient incarcéré ? »
Il prit un temps, escandant sa phrase.
« J'en suis sorti au grand jour et par la grande porte. »
« Vraiment ?» Cette fois, Picard ne dissimulait pas la surprise qui se lisait sur son visage. L'homme qui lui parlait d'évasion avait en effet une sérieuse compétence en cette matière et sa façon d'affirmer ne pouvait laisser que d'intéresser vivement celui qui méditait une évasion pour son maître.
« Vraiment ?» reprit le valet. « Vous n'avez pas craint d'être aperçu ?»«
Aperçu ? Mais je l'ai été, mon cher monsieur Picard. » « Je l'ai été autant qu'on peut l'être. »«
Et l'on ne vous a pas reconnu. »«
Ça, c'est autre chose. J'avais su prendre mes mesures pour qu'on ne pût pas me reconnaître. »«
Et l'on ne vous a pas repris ?»«
Non, mon ami Picard. J'ai su me glisser dehors comme une couleuvre. »«
Vous êtes un homme admirable, monsieur Rumignac. Ce que vous venez de me dire m'intrigue au dernier point. Et c'est peut-être un bonheur que je vous ai rencontré aujourd'hui. »«
Un bonheur ? Pour qui ?»
« Mais pour moi d'abord. De quelle façon comprenez-vous cela ?»«
Tout simplement, parce que vous allez me donner une leçon d'évasion qui pourra me servir. »«
Ah oui !» fit en riant le geôlier. « Quand ce sera le tour de ces autres de porter ce trousseau de clés à la ceinture. Heureusement que nous n'y sommes pas encore. »«
En tout cas, je les attends. Je suis prêt. »«
Mais je ne le suis pas, moi !»
Prononçant ces mots, le vieux domestique feignait d'être fort inquiet. Mais en réalité, il ne quittait plus des yeux le trousseau de clés qui pendait à la ceinture de son interlocuteur.
« Ah, si j'avais celle de ces clés qui ouvrent la cellule de mon maître et la petite porte ferrée de la poterne, je pourrais tenter de rendre la liberté à monsieur le chevalier qui se consume dans le désespoir, » pensait-il.
« Vous disiez donc, » reprit le geôlier, « que je ne suis pas prêt. Et si l'on m'enfermait demain, je n'aurais plus qu'à me laisser mourir de faim comme ce tant été chevalier de Vaudrey.
À moins que vous m'indiquiez le moyen que vous avez employé pour brûler la politesse à ces garnements d'anglais.
Il est simple comme bonjour.
Comme toutes les idées de génie, monsieur Rumignac.
Le geôlier se rengorgea comme un paon. Picard, qui l'observait du coin de l'œil,
jugea qu'il allait enfin se déboutonner. « Eh bien, voici la chose, » dit Ruméniac. « Vous savez déjà que, fait prisonnier sur le champ de bataille où je venais de m'illustrer, je fus enfermé. Oui, dans une forteresse, comme la Bastille, encore plus imprenable. Diable, diable ! On faisait bonne garde à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Mais c'est un miracle que vous avez accompli en vous évadant, monsieur Ruméniac. Un vrai miracle !» Et reprenant son récit. « Donc, me voilà coffré. Dès le lendemain, quelque chose fermentait là-dedans. » Il se frappa le front. « C'était le génie, monsieur Ruméniac. » Le geôlier se rengorgeait de plus en plus. « Oui, continua-t-il, je ruminais. Vous songez à vous évader ? Vous l'avez dit. Comment avez-vous procédé ? Dissimulant mal une pointe d'anxiété. « On vous gardait bien, sans doute. »« Mieux que... je ne... » »« Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. » Enfin, il n'y a guère que moi qui aurais pu me garder mieux qu'on ne le faisait. Alors, une fois votre projet arrêté, demanda Picard impatient d'être renseigné, je l'ai mis à exécution, et voici comment. J'avais remarqué que le dimanche, le geôlier était pressé de s'en aller dès qu'il m'avait apporté la soupe du soir. Ah ! Oui, là-bas, ça se passait, j'ai su cela depuis, absolument comme à la Bastille. Quoi donc ? Les officiers jouaient au dé, pardiem, et les soldats les imitaient. Les geôliers aussi, apparemment. Ça va sans dire. Pour lors, j'avais décidé de déguerpir un dimanche.
Et vous vous y êtes pris ?
Ruméniac, lui regardant les narines. Prenez-vous du tabac, au fait ? Cette question posée à brûle-pourpoint trouva Picard indécis sur la réponse à faire. À tout hasard, il évita de se déclarer formellement, soit pour l'affirmative, soit pour la négative. « Cela dépend, » fit-il simplement. « Je prise ou je ne prise pas, selon l'occasion. »« Eh bien, mon cher monsieur Picard, il faudra prendre l'habitude de priser de façon à avoir sur vous une tabatière toujours pleine. Si je n'en avais pas usé de la sorte, je serais encore à pourrir dans la forteresse de ces scélérats d'anglais. »«
Je ne m'explique pas. » »«
Parbleu, où serait le mérite si tout le monde pouvait comprendre la chose ? C'est alors que les guichetiers et les soldats se méfieraient. Et on ne peut pas se méfier avec votre système ? Pas le moins du monde. J'en donnerai ma tête à couper. Et moi, je donne ma langue au chat, ricana le valet. Primo, d'abord, fit le geôlier, figurez-vous que c'est vous qui êtes le prisonnier.
Oh !
Tremblota le valet. Ça m'en donne la chair de poule. J'aimerais mieux être le geôlier. Ce n'est pas possible. Alors, va pour l'autre. Donc, vous êtes en prison, dans la forteresse anglaise, et vous possédez une grande tabatière, bourrée jusqu'au couvercle. Bien. Depuis longtemps, vous ruminez de vous évader. C'est ça. Vous n'attendez que le moment propice. Voilà ce qui est le plus difficile, savoir quel est le moment le plus propice. Puisque je vous ai dit que c'était le dimanche, il n'y a pas à s'y tromper. Ah ! Fit Picard dont les yeux pétillèrent. « Oui, le dimanche chez nous, c'est le repos et le congé pour les officiers. Il n'en reste qu'un pour toute la compagnie. »« C'est bon à savoir, » s'écria le valet oubliant son rôle. Mais s'apercevant qu'il avait commis une imprudence, il s'empressa d'ajouter. « Croyez-vous que je me suis mis tout à fait dans la peau du bonhomme ? Voilà que je me figurais être le prisonnier pour tout de bon. Voyons, monsieur Ruméniac, continuez. »« Vous disiez donc que... le dimanche en question, le gouverneur avait tous les officiers à dîner, et il ne se serait pas dérangé pour un empire. Alors, le moment du dîner était le plus propice pour réaliser votre projet ? Oh, comme vous êtes pressé ! C'est que c'est moi le prisonnier, fit en plaisantant le vieux domestique. Très bien, monsieur Picard, j'aime qu'on soit gai. Eh bien, oui, c'est tout comme ici. Il vaudrait mieux choisir l'heure du dîner du gouverneur, parce que c'est aussi le moment où le guichetier apporte la nourriture aux prisonniers. Parfait. J'avais donc décidé que ce dimanche-là, je risquerais le coup. Depuis longtemps, j'écoutais pour voir si le geôlier n'arrivait pas. Bien, continuez. J'avais l'oreille fine, comme je l'aurais moi-même. Alors, au bout d'un moment, j'ai entendu mon homme. « Je l'entends, » fit Picard. Il s'arrête à la cellule qui précède la vôtre. « Bon. » Le cœur vous battait bien fort, n'est-ce pas ? Je le laissais battre, mordieu. J'avais bien autre chose à faire dans ce moment-là.
C'est vrai. Je me préparerai.
Comment ? Tenez, prenez ma tabatière. Non, au fait, ce n'est pas nécessaire. Figurez-vous seulement que, vous qui avez votre idée, vous ayez pris, au préalable, la précaution de vider le contenu de votre tabatière à même votre poche. Je l'ai vidé, c'est entendu.
Le geôlier arrivant,
je tremble. C'était pas le moment de trembler, nom d'une corne. Je pris à poigner le tabac. J'en ai la main pleine. La clé grinçait dans la serrure et la porte s'ouvrit. Le geôlier paraît. Il entre, et comme il a les deux mains occupées, car dans l'une il tient l'écuelle à soupe et le pain, dans l'autre le gobelet et la cuillère, je profite de cela. Ah, vous ! Je lui lance une poignée de tabac dans les yeux.
« Allez toujours !» dit Picard.
Il lâche tout et se roule par terre dans d'atroces douleurs. Je me jette alors sur lui. Et ensuite ? Ensuite, comme il me fallait paralyser les mouvements du geôlier, ne pas lui laisser le temps de se reconnaître, et surtout l'empêcher de crier, c'est ça qui devait être le plus difficile. Allons donc, pour un novice peut-être. Mais comme j'étais un malin, j'avais à l'avance fabriqué un baillon, et j'avais un mouchoir tout prêt.
Comment vous avez fait tout cela ?
Parbleu, et bien plus fort que ça. En effet, comme le geôlier ouvrait la bouche pour crier, je lui flanque dans la gorge une nouvelle poignée de tabac. Et tout à fait maître de lui, je lui fourre le baillon dans la bouche, le mouchoir par-dessus, un bon nœud par derrière, et le voilà muet.
Mais le geôlier avait les mains libres, dit Picard.
Eh bien, naïf que vous êtes, est-ce qu'il ne s'en servait pas pour se frotter les yeux qui cuisaient sous le feu du tabac ? Il croyait être aveugle. Et il se fichait pas mal du prisonnier, ses yeux avant tout.
Admirable, admirable !
Picard ne pouvait contenir la satisfaction qu'il éprouvait.
Le geôlier anglais était pris comme un criquet, par les abattis, et comme j'avais fait des bouts de corde avec mes draps, ma chemise, tout ce que j'avais pu trouver, un prisonnier parvient toujours à fabriquer ce dont il a besoin.
Bien, c'est entendu, vous aviez deux bouts de corde.
Je me mis à attacher les poignets du geôlier, solidement. Puis les jambes, tout juste. Et lorsque je l'eus ficelé comme un saucisson, j'eus tout le temps de prendre le trousseau.
Mais ce n'était pas tout d'avoir les clés, mon bonhomme. Pour sortir, il fallait autre chose.
Quoi donc ? Demanda le valet anxieux.
Un déguisement, parbleu.
Sans cela, j'aurais été arrêté dès les premiers pas et réintégré dans la cellule.
Incontestablement.
Et c'est ce qu'il fallait éviter, l'ami, fit Rumignac avec un gros rire.
Mais le déguisement, ça ne se fabrique pas comme cela.
N'était-il pas tout trouvé ? Ne l'avais-je pas sous la main ?
Picard s'était redressé et interrogeait du regard.
La défroque du geôlier, pardier !
S'exclama Rumignac d'un ton triomphant.
La défroque !
Si vous avez jamais à vous évader, mon ami Picard, il ne faudrait pas perdre votre temps au balivernes. Il serait urgent de déshabiller votre homme en deux temps, trois mouvements.
Pour cela, comme il ne pourrait se défendre, ce serait vite fait.
Donc, pour en revenir à mon évasion, j'enfilai les habits de l'anglais, qui étouffait de rage, et un peu aussi par le baillon. Je mis son bonnet et ses ripatons à gros clous.
Et vous avez filé ?
Oui, en homme prudent, par exemple, sans me presser. Pour plus de précaution, j'avais refermé la porte.
Et lorsque vous vous êtes trouvé dans le couloir ?
Parbleu, j'ai filé le long des murs.
Continuez, monsieur Rumignac, continuez, mon ami. Jamais rien ne m'a autant intéressé que ce que vous me racontez en ce moment.
Le fait est que ce brave Picard avait dû se faire violence pour ne pas éclater de joie. Mais il suivait avec la plus grande attention chaque indication nouvelle que lui donnait le geôlier. Il repassait dans sa tête, comme pour les y incruster, tous les mots prononcés par Rumignac. Il eut pu, dès ce moment, recommencer, et sans faire une faute, la répétition de la scène d'évasion qu'on avait détaillée pour la lui faire comprendre. Il se voyait déjà dans le couloir de la prison, refermant la porte, comme l'avait dit Rumignac, pour plus de précaution. «
Donc, vous voici déguisé, costumé en geôlier, » dit-il en s'adressant à son interlocuteur.
« Vous parcourez le couloir, vous arrivez à la porte. » Là se trouvaient les soldats.
Bigre ! C'était le dimanche, mon ami.
Ils se tenaient dans la pièce qui leur sert de corps de garde.
Ils jouaient au dé.
Mais la sentinelle qui devait être à la porte
les regardait jouer.
Oh mon Dieu,
C'est la même chose partout, allez, aussi bien à la Bastille qu'ailleurs.
Alors, le soldat n'a pas fait attention à vous.
Puisque j'étais travestie en geôlier.
Très juste. Vous avez passé devant lui, fier comme Artaban.
Fier ou pas fier, peu importe, pourvu que j'ai passé.
Enfin, je vous vois dans le couloir qui conduit à la cour.
C'est le moment de l'émotion.
Nom d'une pipe, il ne fallait pas en avoir.
Car il y avait là les sentinelles de la cour qui se promenaient le fusil toujours chargé.
Pouh, ne me parlez pas de ça, monsieur Rubignac.
Je marche droit à la poterne. Je l'ouvre.
Avec quelle clé ? Demanda vivement Picard, s'oubliant.
Avec celle-ci. Et le geôlier, choisissant une clé dans le trousseau, la présenta à Picard.
Bon, suis-je assez bête ?
Voilà que je vous indique celle de notre poterne, comme s'il s'agissait
de la Bastille.
C'est égal, je ne suis pas fâchée de la connaître. Toujours en prévision du cas où nous serions enfermés à notre tour.
Picard regardait la clé avec la plus grande attention.
Et maintenant, cher ami, vous voici aussi savant que moi.
C'est merveilleux. Et c'est de cette façon habile que vous vous êtes évadé.
Absolument.
Puis changeant de ton.
Mais tout ce bavardage m'a donné une soif du diable. Nous allons en vider une.
De derrière les fagots ?
Il n'y a pas de fagots dans ma cave, soupira le geôlier. C'est toujours le même vin, de la piquette d'Auxerre à ce que dit ce voleur de cabaretier.
Et vous ne détestez pas une fine bouteille ? Insinua le rusé valet.
Oh, que nenni ! Eh bien, mon camarade, je vous en apporterai une de chez...
Il approcha les lèvres de l'oreille de son interlocuteur et ajouta.
De chez Monseigneur.
Le lieutenant de police ?
Oui, Rumignac, j'ai la confiance absolue du maître.
Et la clé de sa cave ?
Toutes les clés, monsieur Rumignac.
Heureux mortel.
Monsieur de Lignière ?
Oui, car jamais maître n'a été plus fidèlement servi que lui.
Picard avait retrouvé tout son calme. Après le moment de découragement qu'il avait eu, il se reprenait à se laisser de nouveau envahir par l'espérance.
À partir de l'instant où il posséda le secret du geôlier sur la façon de brûler la politesse au gouverneur de la Bastille, il retrouva tous ses moyens intellectuels. L'un des principaux était, comme on le sait, le don de la dissimulation et la faculté de jouer le rôle de bon apôtre lorsqu'il le fallait. Il continua donc, toujours sur le même ton hypocrite.
« Oui, Rumignac, mon ami, monsieur de Lignière, peut compter sur moi, sur mon dévouement et mon zèle en toutes circonstances.
C'est bien cela.
C'est simplement juste, car depuis 30 ans que je suis à son service, il m'a traité comme un membre de sa noble famille.
En vérité, il n'a jamais eu de secret pour moi.
Pas de secret.
Je sais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense.
C'est extraordinaire.
Vous avez dit le mot. En outre, mon maître me demande quelquefois conseil, souvent même.
Rumignac ouvrait de grands yeux ébahis.
Tenez, continua Picard. Lorsqu'il s'est agi de faire enfermer le chevalier, cet excellent monsieur de Lignière répugnait à cette idée. C'est moi qui l'ai décidé à agir avec rigueur.
Je lui ai dit, « Monseigneur, nous ne pouvons pas supporter plus longtemps que notre neveu compromette le nom et l'honneur de notre famille. Nous ne devons pas permettre que nos aïeux tressaillent de honte dans leur sépulture. Ils voient de là-haut que le rejeton de toute cette illustre lignée se compromet avec une péronnelle. Et il faut que vous fassiez respecter leur mémoire. Il le faut.
Et profitant de l'effet que mon discours avait produit sur Monseigneur, continua le valet, je lui ai conseillé de mettre tout simplement le chevalier à la Bastille.
Comment ? C'est vous ? Hasarda le geôlier.
Oh ! Il ne le voulait pas tout d'abord, ce généreux gentilhomme, et j'ai été forcé, pour le décider, de faire pincer monsieur le chevalier en flagrant délit de tête à tête avec la coquette impudente. Et mon maître n'a plus hésité.
Pauvre jeune homme,
je vous conseille de le plaindre. Quant à moi, je le laisserai
mourir de faim.
Ah non, pas tout à fait. Il faut même que nous trouvions moyen de le faire renoncer au jeûne qu'il s'impose. Il est le seul héritier de notre nom, après tout. Un grand nom qu'il ne faut pas laisser éteindre.
Puis changeant de ton.
Vous dites donc, ajouta Picard, qu'il refuse de goûter à l'ordinaire de la Bastille.
Et même à la cuisine de monsieur le gouverneur lui-même, qui a reçu l'ordre de traiter le prisonnier avec douceur.
Eh bien, il me vient une idée.
Qui forcera le chevalier à manger et à boire ?
Peut-être bien, ou du moins,
qui lui engagera avec quelque chance de succès. Et cette idée, quelle est-elle? Voilà. Si je vous apportais, pour ce maudit prisonnier, quelques bouteilles d'excellent vin de la cave de monsieur le lieutenant de police. Oh, impossible. Je ne pourrais les lui donner. C'est juste. Le devoir avant tout. J'apporterai les bouteilles et vous les garderai pour vous.
Pour moi? Mais je ne dois pas...
Non, je veux dire, vous les garderez, chez vous. En dépôt, oui. C'est un simple dépôt que je ferai. Ce vin sera ma propriété et non la vôtre. Puis, chaque fois que je viendrai voir mon ami Rumignac, nous boirons ensemble une ou deux bouteilles de mon excellent vin.
Ah, comme cela, je ne dis pas non.
Quant au prisonnier, l'important, c'est de le décider à manger. Il demandera ensuite à boire, sans qu'on le lui offre.
Mais le moyen?
M'y voici. Je suis, comme vous le pensez, bien initiée au goût du prisonnier. Je connais certains pâtés de caille et d'alouette dont il raffole. J'en rapporterai un. Et avec l'autorisation de monsieur le lieutenant de police, bien entendu.
Oh, avec cette autorisation-là, nous pourrons tout.
Vous donnerez ce pâté au prisonnier.
C'est convenu.
Il le refusera, naturellement, comme il refuse chaque jour ce que vous lui apportez.
Eh bien, alors?
Alors, vous lui direz que cela vient de la part de...
De monsieur Picard?
Gardez-vous-en bien. Il me sait tout doué à mon excellent maître, monsieur de Lignière. Il me hait, et le refuserait plus que jamais.
C'est juste. Mais en ce cas,
vous direz que ce pâté est envoyé...
Par qui?
Par...
Laissez-moi le temps de réfléchir. Lorsque je vous apporterai notre vin, non, je veux dire mon vin et le pâté du prisonnier, j'aurai trouvé, je l'espère, le moyen de lui faire accepter. Et à nous deux, nous aurons l'honneur de conserver à une illustre famille son dernier rejeton.
Et vous êtes bien sûr qu'en agissant ainsi,
je suis sûr que vous attirerez les bonnes grâces de monsieur le lieutenant de police.
Ces bonnes grâces?
Soyez-en persuadé. Monseigneur, qui a fait coffrer son neveu, ne veut pas avoir l'air de faiblir. C'est pour cela qu'il me charge d'agir, moi, son homme de confiance. Il veut que le chevalier se soumette, et non pas qu'il se laisse mourir de désespoir et de faim. Et comme vous aurez aidé à l'accomplissement des désirs de monsieur le comte, je puis vous assurer d'avance de sa haute protection.
La protection de monsieur le lieutenant de police? À moi, Rumignac?
Sa haute protection, mon cher, je vous la garantis.
Et s'interrompant, persuadé que le dernier coup était porté, Picard se leva.
« Corne de bœuf, » dit-il, « déjà si tard. J'oubliais que mon maître m'attend. »«
Ah, il vous attend ?»«
Oui, pour que je lui rende compte de l'état de son neveu et du résultat de ma démarche. »« Au revoir donc, monsieur Rumignac. »«
À ce soir. »«
Ce soir ?»«
Si j'ai le temps, je passerai par ici. »
Puis subitement inspiré.
« Je crois que monseigneur doit me charger d'un message pour votre gouverneur. »
En ce cas, j'apporterai les bouteilles et le pâté.
Mais avant 8 heures alors, parce qu'à 8h30, je reprends mon service, et à partir de ce moment-là, je ne suis plus un homme comme un autre.
Vous devenez un cerbère, monsieur Rumignac.
Il le faut bien.
Donc, à 8 heures.
Les deux hommes se serrèrent la main avec toute la cordialité que provoquent de nombreuses libations. Et Picard se retira en sautillant sur les pointes, comme un homme enchanté de lui-même. Rumignac, lui, achevait de vider consciencieusement la bouteille à large panse.